Voilà, donc bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je continue le parcours de l'évangile de Marc. Et donc la dernière fois où on s'est arrêté, on avait vu que Jésus avait accueilli même ce que d'autres n'accueilleraient pas, c'est-à-dire les incrédules, les petits, ceux qu'on considère comme les petits, et les enfants. Ceux qui sont différents, qui croient, qui expriment leur foi d'une manière différente de la nôtre. En bref, ceux qui sont à l'opposé de l'échelle de valeur des hommes. Et puis donc, là où nous nous sommes arrêtés, donc là où nous allons reprendre, le voilà de nouveau en prise avec les pharisiens, qui veulent le piéger, encore une fois, ils veulent l'éprouver, cette fois au sujet de la famille, et plus particulièrement au sujet du divorce. Au sujet du divorce. Alors, aujourd'hui, en France, il y a une augmentation significative du nombre de divorces en France. Près de un mariage sur deux s'est soldé par un divorce. Un mariage sur deux s'est soldé par un divorce ces dernières années. Et on en compte même aussi parmi les chrétiens, ce qui ne devrait pas. Jésus est très clair à ce sujet, c'est ce que va nous montrer le texte que je vais lire. Donc en Marc chapitre 10, c'est là où on s'est arrêté. Je vous invite à prendre dans vos Bibles donc l'évangile de Marc, chapitre 10, et je lirai déjà du verset 1 au verset 12. Et avant cela, je vais prier. Seigneur, encore merci pour ta parole, parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin, avec ta grâce, Seigneur, pour avancer dans ce monde, avec nos hauts, nos bas, dans les problèmes, les difficultés qui ne manquent pas, mais nous avons tout ce qu'il faut, Seigneur. Aide-nous à épuiser notre force, Seigneur, et dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter, à recevoir ta parole. Débarrasse-nous de tout souci, de toute distraction qui veut nous distraire, loin de ta parole. On reçoive ta parole, Père, au nom de Jésus, et qu'elle agisse en nous. Amen. Je lirai donc Marc chapitre 10. Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau près de lui, et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit : Que vous a commandé Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples le questionnèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit : Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un texte donc sensible, qui est dans la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, arrivé là où nous en sommes arrivés dans l'évangile de Marc, et qui pose ce problème du divorce. Je vous pose une question à laquelle vous avez peut-être une réponse, mais en tout cas je ne vous demande pas d'y répondre là. Est-il possible d'être une famille en or ? Vous connaissez le titre de cette émission ? Je ne l'ai pas regardé, mais est-il possible d'être une famille en or, une famille formidable, au titre d'une autre émission, une famille formidable qui donne envie d'aller vers Jésus ? Est-ce que c'est possible, d'après vous, oui ou non ? Je vous laisse garder la réponse pour vous-même. J'ai intitulé mon message « De la famille terrestre à la famille de Dieu ». Et c'est ce que je vous invite à voir, en tout cas d'après ce texte. La vérité que j'en tire, c'est que la famille terrestre, conjoint et enfant, est invitée à imiter Jésus-Christ. La famille terrestre est invitée à imiter Jésus-Christ. Comment ? Eh bien, premièrement, ça sera mon premier point, le couple. Le couple est invité à imiter Jésus-Christ, l'homme et la femme. Deuxièmement, nous verrons que Jésus invite les enfants à venir à lui. Ça sera la suite du texte que je lirai après dans un second temps. Mais premièrement, arrêtons-nous sur le couple. Le couple est invité à imiter Jésus-Christ. Voilà donc Jésus qui se fait aborder par des pharisiens comme toujours, qui cherche à le tester, à le piéger, en lui demandant s'il est permis ou non de divorcer à un homme, de répudier sa femme. Et là, ils ont bien posé la question. Un homme, ils n'ont pas posé à la femme de répudier un homme. Jésus est très clair. C'est ce que nous allons voir. Un rabbin juif de l'Antiquité qui a laissé des traces, qui s'appelait Hillel, eh bien, il a dit ceci, enfin, il disait que presque tout motif de déplaisir pour un mari pouvait justifier le divorce, répudier sa femme. Par exemple, laisser trop cuire le pain, c'était un motif de divorce, de répudier sa femme. Alors, on voit à quel point l'homme tirait la couverture hein, sur lui. Et Jésus, là, eh bien, il ne cherche pas à argumenter. Sa réponse, c'est une autre question pour faire pointer les pharisiens sur quoi ? Sur que dit l'Écriture. C'est l'Écriture qui fait autorité. Jésus n'était pas marié, donc il ne pouvait pas parler de son expérience conjugale. Son épouse, c'est nous l'Église. Jésus n'était pas marié, alors à quoi se réfère Jésus ? À l'Écriture. Et plus particulièrement, Jésus va poser la question, que dit Moïse ? Jésus va pointer sur la loi mosaïque. Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ? Ce à quoi les pharisiens répondent, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Alors, avant d'aller plus loin sur la question du divorce, que fait Jésus ? Il va rappeler ce que dit l'Écriture au sujet du mariage. Et c'est l'Écriture qui doit trancher pour répondre à cette question. De nos jours, où le mariage et même la famille sont tellement controversés, c'est quoi la famille aujourd'hui ? Vous demandez à quelqu'un dans la rue, il n'y aura pas la même réponse forcément. De nos jours où le mariage et la famille sont si controversés, la seule bonne réponse à donner sur ce qu'est le mariage, sur ce qu'est le divorce, sur ce qu'est la famille, c'est de se référer à l'Écriture. Donc, si on vous pose la question, dites ce que dit l'Écriture. Imitez Jésus, imitons Jésus. Ça sera plus facile que d'argumenter. Et justement, avant de parler du divorce, Jésus va rappeler ce que dit l'Écriture au sujet du mariage, et je relis les versets 6 à 9. Pardon. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Alors c'est quoi le mariage, si on vous demande ? Ben, le mariage, ce n'est pas une invention humaine. Le mariage, c'est une institution divine qui vient de Dieu. Et le mariage, c'est une alliance. Pensons le mariage comme une alliance. Il y a une alliance entre Dieu et son peuple. Le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme, précisons-le bien, d'après la Bible. Alors, avant de parler du divorce, il faut parler du mariage, ce que c'est le mariage. Et avant de parler du mariage, il faut remonter à ce qu'est la création. Puisque le mariage a suivi aussitôt la création de l'homme, avec la création de la femme. Et il est bon de se rappeler que l'homme a été créé en premier. C'est ainsi. L'homme a été créé en premier et a été tiré de la terre. Tandis que la femme a été ensuite créée. Elle a été tirée de l'homme à partir d'une des côtes de l'homme. Voir Genèse chapitre 2, versets 7 et 22. Alors, Dieu a usé d'un mode de création différent pour l'homme et pour la femme. De par leur mode de création, Dieu a usé de variété. On a un seul Dieu qui est tellement riche. Il a usé de variété dans son mode de création pour créer l'homme et pour créer la femme. Dieu n'a pas fait du clonage. Il n'a pas fait du clonage. Imaginons si Dieu avait créé Ève à partir de la terre, comme il a créé Adam. Ève serait certainement semblable, trait pour trait, à Adam. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi Dieu a-t-il procédé ainsi, de tirer la femme à partir d'une des côtes de l'homme, de la créer, pour qu'il soit différent ? Différent, mais de même nature, nature humaine. Différent, mais en même temps si proche. Et seul Dieu a pu faire cela. Si Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, ce n'était pas pour qu'elle lui soit inférieure, comme on entend à l'entendre. Ce n'était pas pour qu'elle lui soit inférieure, mais pour qu'elle soit son complément, qu'elle soit à ses côtés. qu'elle soit son vis-à-vis. C'était pour qu'il jouisse d'une intimité, d'une proximité humaine qu'on ne trouve que dans le mariage. Et vous connaissez l'histoire. Adam a tout de suite reconnu en Ève la chair de sa chair et l'os de ses os. Et on peut affirmer que les deux, pour reprendre cette formule romantique, les deux étaient faits l'un pour l'autre. Oui, par Dieu. Jésus a cité Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Avant de dire, verset 9, que l'homme ne sépare pas, ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Alors, on peut se poser la question, pourquoi dans un couple, l'un ou l'autre, ou les deux, en arrive-t-il à vouloir divorcer? Quelles peuvent en être les raisons? Parmi les causes possibles, on peut trouver l'insatisfaction sexuelle. L'un ne satisfait plus l'autre, sexuellement. Mais ce n'est certainement pas une cause suffisante pour divorcer. Pourquoi? Parce que dans le meilleur des cas, les deux prennent de l'âge, finissent par devenir vieux, et... le sexe finit par perdre de son importance avec l'âge. Les rides arrivent, les courbatures arrivent. Donc c'est pas ça, même si c'est très important la sexualité. Mais c'est pas ça en premier qui doit souder le mariage. Il contribue à souder le mariage. Et c'est sûr que la sexualité contribue à souder le couple par le plaisir qu'elle donne. Mais il y a un ciment encore plus fort que la sexualité. C'est la promesse que les deux conjoints se sont faites, de s'aimer mutuellement, dans les bons comme dans les mauvais jours, si ça vous rappelle quelque chose. J'aime bien insister au mariage parce que c'est une bonne piqûre de rappel de mes propres promesses. Et c'est dans le mariage que les époux se font cette promesse. Pourquoi deux époux se marient-ils devant Dieu? Par là, ils reconnaissent que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas y arriver. Ils ont besoin de l'aide divine, ils ont besoin de l'aide de Dieu pour que ça tienne. Ils ont besoin de l'aide de Dieu pour tenir leurs promesses. La Bible parle de l'indissolubilité du mariage. L'apôtre Paul en parle. Et toutefois, il va différencier le cas d'un couple mixte dans le sens un est chrétien et pas l'autre, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 7, les versets 10 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 à 13. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Alors l'apôtre Paul, il met bien la différence entre eux. C'est le Seigneur qui parle, et ensuite c'est lui qui parle. N'empêche que les deux sont paroles de Dieu. Même si sa lettre aux Corinthiens reste parole de Dieu, toute la lettre aux Corinthiens, elle fait partie de la parole de Dieu, Paul donne un avis personnel en tant qu'homme. Il conseille personnellement aux croyants, dans le cas d'un couple mixte, chrétien non chrétien, il conseille aux croyants de ne pas prendre l'initiative de quitter son conjoint non-croyant. Mais de ne pas s'opposer à ce que le non-croyant quitte le foyer s'il le souhaite, de ne pas s'y opposer. Il est libre, le non-croyant. C'est ce que dit le verset 15, un peu plus loin, 1 Corinthiens 7, 15. Voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le couple doit être un lieu où on peut retrouver la paix dans ce monde si agité. Mais ce n'est pas toujours le cas, il faut bien le reconnaître. La violence conjugale a explosé ces derniers temps. Dans l'exemple de violence conjugale, c'est clair qu'il ne faut pas rester dans cet état. si l'un ou l'autre est violent, s'il y a un premier coup de portée, il ne faut pas en rester là. Et ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Dieu nous a appelés à vivre en paix. La seule cause, et c'est vraiment la seule, qui justifie le divorce, c'est l'adultère. Et dans l'évangile de Matthieu, dans son sermon sur la montagne, donc Matthieu chapitre 5, Jésus dit expressément que la cause du divorce, c'est l'adultère. Je vous le relis. Matthieu 5, verset 32. « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Là, il est question de la femme qui est répudiée. Dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de motif. Dans l'évangile de Marc, l'adultère n'est pas évoqué. Pardon, l'adultère comme cause de divorce. C'est la répudiation sans précision de motif. Au verset 11, Jésus dit tout simplement que répudier sa femme sans motif, il y a quand même adultère, l'a fait devenir adultère. Et là, dans l'évangile de Marc, Jésus mentionne aussi la femme. La femme qui veut répudier son mari. Donc c'est vrai aussi, lorsque c'est la femme qui répudie l'homme, eh bien, il fait devenir l'homme adultère. Ce qui montre bien que la femme n'est pas inférieure à l'homme. L'homme n'est pas non plus inférieur à la femme. Il est dit que c'est elle qui commet adultère. Si une femme répudie son mari et qu'elle en épouse un autre, elle commet adultère, elle. Dans le premier cas, c'est l'homme qui commet adultère, dans le deuxième cas, c'est elle. Si l'un ou l'autre répudie le conjoint. Alors c'est, en résumé, si on prend et c'est capital. L'adultère, c'est soit la cause légitime du divorce, soit la conséquence du divorce. L'adultère est inséparable du divorce. Je le redis, je le répète. L'adultère est donc soit la cause légitime du divorce, soit la conséquence du divorce. Quelqu'un qui a répudié une femme ou son mari sans motif. Voilà une bonne raison de travailler à la bonne santé de son couple, aussi bien l'homme que la femme, avec la grâce de Dieu, parce qu'on en a besoin. Et vraiment, ne doutons pas que Dieu entend vos prières. Dieu entend nos prières pour notre conjoint, notre plus proche prochain. Peut-être vous en avez fait l'expérience. Vous avez prié pour votre conjoint et vous avez vu Dieu répondre. Alléluia. Dieu entend votre prière pour votre conjoint, qu'il soit chrétien ou pas. Notre conjoint, c'est notre plus proche prochain. Et certainement, vous vous rappelez à la question des pharisiens, est-il permis de répudier sa femme ? Certainement que lorsque Jésus leur a reposé la question, qu'est-ce que Moïse vous a commandé ? Il faisait référence aux 10 commandements. Et certainement que Jésus aurait préféré entendre le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Certainement que Jésus aurait préféré entendre cette réponse. Dieu a créé l'homme et la femme différents. Nous sommes différents. Et nous avons aussi un rôle différent, une fonction différente. Et le problème, aujourd'hui encore plus dans notre société, c'est que sous couvert du mot « égalité », nous voyons une certaine confusion s'installer, non seulement entre la nature même de l'homme et de la femme, mais aussi dans la fonction de l'homme et de la femme. Et c'est alors que les problèmes surgissent, qui touchent ou qui ont aussi touché des couples chrétiens. Et l'homme et la femme, au lieu d'être complémentaires, selon ce que Dieu veut, l'homme et la femme deviennent des rivaux. Et on peut encore analyser les causes de la rivalité. Une des causes, c'est lorsque un des conjoints, eh bien, il a fui ses responsabilités dans le couple. Il n'a pas voulu assumer ses responsabilités, ou alors il les a assumées pendant un temps, et ensuite il les a abandonnées, peut-être par découragement, par dépit. Qu'est-ce qui se passe ? L'autre conjoint se retrouve avec toute la charge du foyer. Et, et donc il est poussé en quelque sorte, il n'a pas le choix à les assumer. Ça touche aussi bien la gestion du ménage que l'éducation des enfants. Alors, c'est à chacun de se mettre d'accord dans un couple. Qui va s'occuper des finances? Qui va faire le ménage? Qui va faire la cuisine? Il n'y a pas de règle là-dessus. On peut s'entraider. Bon, il ne faut pas me demander de faire la cuisine. Ce serait un désastre. Ma femme est à sa place. Une autre cause d'une rivalité, c'est lorsque l'homme, lorsqu'on est au clair sur sa fonction, nous sommes responsables de nos foyers. Une autre cause, c'est lorsque l'homme abuse de sa position de chef de famille. En imposant à son épouse toutes sortes d'exigences, à des fins manipulatrices et égoïstes, tel un dictateur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la femme veut prendre sa revanche et usurper le rôle de son mari, ne voulant plus être traité comme un paillasson, ne voulant plus être traité comme inférieur. Et c'est là qu'est la confusion. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Mais l'homme est le chef de la famille dans l'ordre créationnel, parce que créé avant la femme et parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et qui dit ordre dit autorité. L'homme et la femme ont autorité sur leurs enfants. Ce n'est pas vos enfants qui ont autorité sur vous, n'est-ce pas? C'est une question d'autorité, d'ordre. Mais qui dit autorité ne dit pas autoritarisme. Autorité n'est pas autoritarisme. Dieu nous appelle, les hommes, à aimer notre épouse. Il nous appelle. Il appelle l'homme à aimer sa femme et c'est plus facile de se soumettre à quelqu'un dont on se sait aimé et quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Mais qui dit se soumettre ne dit pas être inférieur. Qui dit se soumettre ne veut pas dire ne jamais rien dire. Et encore moins accepter une quelconque violence, soyons clairs. Se soumettre ne veut pas dire accepter une quelconque violence. Alors, oui, on est différent, mais différent ne veut pas dire déficience. La femme n'est pas inférieure à son mari parce qu'il lui manque des dons. Ça, c'est la pensée du monde. Alors, quel remède? Quel remède pour éviter d'en arriver au divorce? Est-ce qu'il existe des remèdes? Oui. Et revenons-en au mariage. Rappelons-nous que le mariage, selon Dieu, je précise, c'est avant tout une alliance. Alors, dans notre société civile, il y a des contrats de mariage. Il y en a qui contractent des contrats de mariage. Et même sans contrat de mariage, on signe quand même à la mairie. On signe quand même cet acte de mariage. Mais différencions bien ce que c'est que l'alliance et ce que c'est que le contrat. Un contrat, ça peut aussi bien servir à une union qu'à une séparation. Moïse avait donné la possibilité d'écrire un acte de divorce. C'était aussi un contrat. Un contrat écrit à cause de la dureté du cœur, nous dit Jésus, du cœur humain. Et il y a bien une différence entre le contrat et l'alliance. Le contrat fait référence à la lettre, à un engagement écrit. L'alliance fait référence au cœur et à la vie. Le contrat va dire, que puis-je recevoir de l'autre au travers de cet accord? Le contrat dit, que puis-je offrir à l'autre au travers de cet accord? Le contrat dit, tu dois te sacrifier pour moi. L'alliance dit, je me sacrifierai pour toi. Le contrat fait valoir ses droits. L'alliance fait valoir l'amour. Le contrat favorise l'égocentrisme. L'alliance favorise le christocentrisme entre deux époux chrétiens. L'alliance parle d'un engagement intentionnel et inconditionnel. Et c'est bien souvent ça qui fait défaut dans notre société aujourd'hui. Beaucoup de jeunes vivent ensemble, ne vont pas jusqu'au pas du mariage, ils ne veulent pas s'engager. Alors que l'alliance parle d'un engagement intentionnel, et qui dit engagement dit sacrifice. Beaucoup de couples se déconnectent l'un de l'autre et leur relation se détériore lorsque l'un ou l'autre n'est plus engagé à faire des sacrifices pour préserver leur union. Quelqu'un a dit que on peut se sacrifier sans aimer, et ça rejoint 1 Corinthiens 13. Si je peux donner tous mes biens, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Juste pour citer une portion. On peut se sacrifier sans amour, mais on ne peut pas aimer sans se sacrifier. On ne peut pas aimer sans se sacrifier. L'amour vrai implique des sacrifices. Et qui est-ce qui nous a montré le meilleur exemple ? Eh bien Dieu. Dieu nous a montré l'exemple suprême en sacrifiant Jésus, son Fils unique, par amour pour nous, afin que nous soyons sauvés. Ça, c'est l'amour en action. Alors, quelle solution aux crises conjugales ? Eh bien, la seule que je vois, c'est d'imiter le modèle trinitaire divin, la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne veux plus particulièrement m'attacher entre la relation entre le Père et le Fils. Jésus, soyons clairs, était soumis à Dieu son Père sans jamais lui être inférieur. Il lui est de la même nature, la nature divine. C'est le Fils qui est mort sur la croix, pas le Père. Jamais le Père n'a imposé sa volonté au Fils. Mais le Fils s'est toujours soumis à son Père de son plein gré. Même au moment le plus dur, à Gethsémané, avant la croix. Et jamais le Fils n'a pris une décision sans consulter le Père. Voilà le modèle à imiter dans un couple, dans le fonctionnement. Le modèle suprême. Alors oui, les problèmes, je vais dire c'est normal, c'est inévitable qu'il n'a pas eu de dispute dans son couple. Les problèmes, les disputes entre conjoints surgissent souvent lorsque chacun a sa vérité et veut l'imposer à l'autre, persuadé qu'il a raison et que moi j'ai qu'il a tort et que moi j'ai raison. Ça, c'est dans l'air du temps. Mais prenons le cas d'un couple chrétien où les deux confessent le Christ. Dans ce cas-là, il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une seule. Et cette vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Jésus qui a dit en Jean 14, 26, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas dit les vérités, il a dit la vérité et la vie. Alors si chacun des deux conjoints se réclame du Christ, se disent chrétiens, aiment le Seigneur, l'important n'est pas de dire à l'autre « j'ai raison et tu as tort », mais de chercher ensemble où le Christ a-t-il raison. Lui qui est la seule vérité. Comment chercher ensemble où le Christ a-t-il raison ? Comment ? Eh bien, en priant. En priant ensemble. Déjà, se mettre d'accord pour prier ensemble, lorsqu'il y a un différend, lorsqu'il y a une dispute. Déjà, se mettre d'accord sur ce, même si le cœur n'y est pas. Mais se mettre d'accord pour prier ensemble sans attendre, c'est déjà le premier pas vers la guérison et vers le pardon mutuel. Si les deux époux se disent chrétiens. Pourquoi ? Pour la bonne raison que Dieu nous a pardonnés. Déjà pardonnés par la mort et la résurrection de Christ. Nous qui l'avons accepté. Éphésiens 4, verset 32, un verset utile à se rappeler, comme tous les autres. 4, 32, dans ce cas-là. Soyez bons dans le cadre du couple. Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est jamais que l'un a tous les torts et l'autre a raison. Il y a toujours une part. Part de responsabilité. Pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Le pardon. Ce savoir pardonner va nous pousser à aimer. Pourquoi nous aimons le Seigneur ? Il nous a pardonné nos fautes. Ce savoir pardonner va nous pousser à aimer, et inversement, aimer va entraîner le pardon. C'est un cercle vertueux. C'est le cercle vertueux de la grâce. Alors oui, Jésus a rappelé l'indissolubilité du mariage. Déjà pour le couple, en lui-même. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des couples qui vivent des situations douloureuses, c'est pas si simple. Mais le mariage, il y a de l'indissolubilité du mariage, Jésus l'a rappelé. pour une autre raison. Pour une autre raison, le mariage est indissoluble. Pour les enfants. Pour les enfants. Pour assurer la... C'est l'indissolubilité du mariage qui va assurer la sécurité de vos enfants, des enfants. Et je vais continuer la lecture du texte à partir du verset 13, du verset 13 au verset 16 où il est question des enfants. Marc 10 à partir du verset 13. Donc la suite de notre texte. Je vais le lire. Marc 10, 13. Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Dans mon premier point, le couple chrétien est invité à aimer, est invité à imiter Jésus. Et bien, dans mon deuxième point, Jésus invite les enfants à venir à lui. Et là encore, ce ne sont pas, il ne faut pas faire opposer quand il y a des problèmes dans un couple. Il y a la tentation de s'appuyer sur les enfants. Attention. Ce ne sont pas les enfants qui vont souder le couple. Pas plus que la sexualité. Je le rappelle, c'est l'engagement réciproque devant Dieu qui doit, des deux conjoints, l'un vis-à-vis de l'autre, qui doit être le plus fort ciment. Et qui plus est, un couple uni sera une sécurité pour les enfants. Combien d'enfants souffrent de la séparation de leurs parents parce qu'ils aiment autant leur père que leur mère ? Ils se sentent déchirés en eux-mêmes. Ils aiment autant l'un que l'autre. Même si chacun a sa part de tort. Les enfants ne font pas de différence. Ils aiment leurs deux parents. Ils ont besoin de leurs deux parents. La bonne santé spirituelle des enfants dépendra de la bonne santé spirituelle des deux parents. Ici, dans notre récit, ce sont des parents qui ont amené leurs enfants à Jésus. Et ça nous rappelle ce qu'on pratique dans nos églises, la présentation d'enfants. On ne baptise pas les enfants dans nos églises. On attend qu'ils prennent leur décision adulte. Mais voilà, des parents amènent leurs enfants à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ? Le disciple les repousse. Et Jésus est indigné. Il est indigné de ce que ses disciples les empêchent de venir à lui. Ses disciples, croyant bien faire, ils croient qu'ils importunent le maître. Ils pensent, et comme beaucoup encore, comme dans beaucoup de milieux, ils pensent que comme beaucoup, que les enfants sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes et ils doivent attendre de devenir adultes pour savoir qui est Jésus ou pour entendre tel ou tel récit de la Bible. Ils pensent qu'ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas encore comprendre. Mais pour Jésus, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et vous vous rappelez au chapitre précédent, chapitre 9, Jésus avait pris un enfant. Les disciples discutaient qui était le plus grand, sur qui était le plus grand. Et en Marc 9, verset 37, que je vous relis, voilà ce qu'a dit Jésus. « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jésus prend les enfants comme modèle. Et je précise, pas comme modèle de perfection, mais comme modèle de dépendance. Comme modèle de foi, comme modèle d'humilité, sans aucune prétention. Un enfant, il ne fait pas de longues prières comme un adulte pour mériter quelque chose, ou pour l'apparence, comme c'était le cas des pharisiens. Et en prenant l'exemple en mettant les enfants comme exemple, Jésus avait voulu montrer que la vie éternelle ne se mérite pas, mais elle se reçoit. Il a voulu montrer que recevoir la vie éternelle, c'est recevoir Jésus comme un enfant. Recevoir la vie éternelle, c'est recevoir Jésus comme on reçoit un enfant. La vie éternelle, elle se reçoit comme un cadeau, le plus beau des cadeaux. Elle ne se mérite pas. Elle se reçoit dans la repentance et dans la foi, dans le sacrifice de Christ. Alors il ne s'agit donc pas pour l'enfant d'attendre de devenir adulte pour recevoir Jésus, mais pour l'adulte de devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. système de valeurs de Jésus, il est renversé par rapport à celui des hommes. Et imaginons la porte du royaume des cieux. Il y a le royaume des cieux, il y a la porte pour y rentrer. Et imaginons que la porte est d'une certaine taille. Eh bien, c'est comme si la porte du royaume des cieux était de la hauteur d'un enfant. Un enfant, il y rentre sans aucun problème. Un adulte, il faut qu'il se baisse pour entrer dans cette porte, par cette porte, dans l'humilité. Mais attention, Jésus n'est pas en train de dire que l'enfant est parfait, bien sûr, ne tombons pas dans ce travers. Et vous qui êtes parents, vous ne me contredirez pas, vos enfants ne sont pas parfaits. L'enfant a aussi besoin de recevoir Jésus. Tout enfant qu'il est, tout mignon qu'il est. En effet, un enfant est pécheur dès sa naissance. Et la Bible parle même d'un temps à partir duquel il est capable de discerner entre le bien et le mal. C'est dans Ésaïe 7, verset 16, si vous voulez la différence. Il y a un âge en dessous duquel il ne peut pas discerner le bien et le mal. Et je crois vraiment que la grâce, le sacrifice, si un enfant meurt alors qu'il n'a pas pu discerner le bien et le mal, je crois qu'il est au bénéfice du sacrifice de Christ et qu'il va au ciel directement avec Jésus. Maintenant, il y a un âge, et la Bible ne donne pas d'âge, hein. Il y a un âge où l'enfant, il devient capable de discerner le bien du mal. Et là, il devient responsable. Est-ce qu'un enfant peut être sauvé? Est-ce qu'un enfant peut se convertir? Eh bien, dès lors qu'un enfant a compris qu'il est pécheur, quand désobéissant à papa et maman, il désobéit à Dieu, qui a dit « Honore ton père et ta mère ». Dès lors qu'un enfant a compris qu'il est pécheur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut demander pardon à Dieu. Il peut recevoir le pardon en Jésus-Christ. Et ça peut être très tôt. Il y a des enfants qui se sont convertis à l'âge de 4 ans. Et ça a donné des hommes, des femmes de Dieu consacrés. Bien sûr, il s'agit aussi de les conseiller, de les prendre à part, de voir ce qu'ils ont compris. Alors je reviens à la présentation d'enfants. On a parfois dans nos milieux... On n'a pas de baptême d'enfants, mais les parents demandent à présenter leurs enfants lors d'un culte pour demander l'aide de Dieu et aussi la prière de l'Église pour éduquer leurs enfants. Les parents présentent leurs enfants à Jésus. Est-ce que les parents présentent Jésus à leurs enfants? Sans m'attarder là-dessus, c'est avant tout le rôle des parents, avant celui de l'école du dimanche, d'enseigner les enfants, d'instruire les enfants avec l'Évangile, de leur présenter Jésus. Si on a bien présenté aux enfants Jésus, celui qui les aime au point d'avoir donné sa vie pour eux aussi, eh bien ensuite c'est à l'enfant de faire sa propre démarche pour venir à Jésus. Jésus qui est toujours prêt à les accueillir. Et vous avez remarqué, Jésus ne dit pas « Laissez les petits-enfants être amenés à moi. » Ce sont les parents qui ont amené les enfants. Il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? « Laissez les petits-enfants venir à moi. » Venir à moi. Alors oui, aussi bien si on est moniteur, monitrice ou qu'on soit parent, notre rôle, c'est de les encourager, sans pression, mais de les encourager aussi par notre modèle à venir à Jésus. Jésus qui veut les accueillir, qui les accueille. Alors oui, la famille terrestre devrait être l'endroit idéal pour rentrer dans la famille céleste. Nous venons tous de quelque part. Et peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur quand vous regardez à vos difficultés, même à vos échecs, à vos erreurs, pour maintenir à flot votre famille. Eh bien, dans ce cas, même si vous avez commis des erreurs, la grâce de Dieu, elle est toujours là. Elle est toujours là pour nous relever, pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre nos erreurs. Et pour essayer de ne pas reproduire toujours les mêmes travers, les mêmes erreurs. La grâce de Dieu est là, ne nous en privons pas. Et là encore, soyons certains que Dieu, de même que Dieu entend notre prière pour notre conjoint, soyons certains qu'il entend nos prières, vos prières pour vos enfants. Il les entend. Amen. Je vais prier. Merci encore, Seigneur, de nous avoir laissé ta parole. Seigneur, nous venons tous de quelque part. Tu nous as fait naître dans une famille que tu connaissais déjà. Il n'y a pas de hasard avec toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et Seigneur, tu sais combien la famille est attaquée, controversée de nos jours. Tu sais combien la tâche des parents est difficile de vouloir, de pouvoir instruire leurs enfants dans la vérité, sachant parfois ce qu'ils entendent de contraire à ta parole à l'extérieur. Seigneur, la tâche n'est pas simple. Mais avec toi, c'est possible, Seigneur. Je te demande vraiment ta grâce pour aider les parents dans l'éducation de leurs enfants, pour que, Seigneur, les enfants aient envie de te connaître, qu'ils connaissent Jésus, qui s'est sacrifié pour eux, qui est prêt à les accueillir, Seigneur. Et Seigneur, je te demande que l'Église soit bien sûr aussi une aide pour instruire les enfants. Je te prie aussi pour les couples. Les couples dans l'Église, Seigneur, tu connais, Seigneur, les circonstances de chacun. Tu sais très exactement ce que chacun vit au sein de son couple. Tu connais les cœurs, tu connais les difficultés, tu connais les joies aussi, tu connais les peines. Seigneur, je te demande aussi ta grâce pour nos couples respectifs, Seigneur. Pour que, Seigneur, nos couples reflètent Jésus, Seigneur, dans son caractère, dans sa manière de faire, de pardonner. Seigneur, je te prie que, nos couples soient vraiment à la fois, nos foyers soient des havres de paix, Seigneur, où nous pouvons chacun vivre, Seigneur, de ta grâce, vivre, Seigneur, ta paix. Tu nous as appelés à vivre en paix. Et je te prie, Seigneur, pour les difficultés que les uns et les autres rencontrent, Seigneur. Quel couple ne rencontre pas de difficultés? Mais Seigneur, tu es plus grand. Et tu nous as tout donné, Seigneur, dans ta parole. Tu nous as donné ton Fils pour qu'on soit capable, Seigneur, de surmonter les difficultés. Alors, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous enlèves nos mauvaises habitudes, que tu les remplaces par des bonnes habitudes, Seigneur. Et que, Seigneur, qu'il y ait aussi des moments de prière, Seigneur, à l'intérieur des familles, déjà dans le couple et aussi avec les enfants, Seigneur. Et je prie que le résultat de tout cela, c'est que, eh bien, chacun ait envie de toujours progresser avec toi et de prendre ton modèle, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen.